Salut Nicolas.
Bah Hélène, salut, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Je sais pas, j'ai pris froid, j'ai perdu ma voix.
Oh non, ça c'est le cauchemar pour les animateurs et animatrices radio. Mais comment tu vas faire pour l'émission là dans 2 minutes?
Je sais pas, mais j'ai pensé un truc. Comme on va parler de science-fiction, je me suis dit que je pourrais demander à une intelligence artificielle de parler à ma place.
Ah ouais, pas mal. T'as déjà essayé?
Non mais, j'ai tout entré dans l'algorithme. Attends, on va tout de suite tester.
Ah non, mais là, tu t'es planté. Ne me dis pas que tu as utilisé ChatGPT.
Si, tu connais mon amour pour les chats.
Bah oui. Bon, t'en fais pas, je suis sûr qu'elle va être bestiale, cette émission.
Savez-vous où sont les livres?
Il y a quelqu'un dans la bibliothèque.
Quartier Livre, Hélène Ichters, Nicolas Julia.
Oh, ne vous pressez pas, j'ai la passion des livres.
Vous entrez dans la réserve naturelle des bouquins. Quartier Livre.
Voilà, au final, aucune intelligence artificielle n'a été nécessaire à la fabrication de cette émission et j'ai retrouvé ma voix, en tout cas, voilà, je touche du bois pour qu'elle ne parte pas en cours de route. Donc on a échappé à un beau scénario de science-fiction quand même. En revanche, ce n'est pas le cas de la publication suisse que je tiens entre mes mains et qui regorge d'intelligence artificielle, de robots et de machines. Ça s'appelle Situation 2043 au pluriel, un projet qui propose d'explorer par la fiction et l'anticipation de la SF des situations où la population suisse serait bouleversée par la technologie. Mais pas que, c'est un peu simplifié. Une initiative qui émane de la Confédération Suisse, plus précisément du département Défense et Technologie. On va mettre un petit peu d'ordre dans toutes ces informations avec nos 3 invités aujourd'hui qui vont nous expliquer tout ça. Il y a d'abord vous, Quentin Ladetto, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes directeur du programme de prospective technologique au sein d'Arma Suisse Sciences et Technologies. Vous êtes l'initiateur de ce projet original pour lequel vous avez contacté notre deuxième invité, Frédéric Jacquot. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Quartier Libre. Vous êtes pour votre part écrivain et spécialiste des littératures excentriques. J'aime beaucoup ce terme, c'est ce qu'on peut lire dans votre bio. Également conservateur de la Maison d'ailleurs et fondateur de la société Hypothesis. Vous avez supervisé cette publication et apporté un regard d'historien sur la relation entre fiction et technologie à travers plusieurs articles et essais que l'on peut y trouver. Il y a enfin notre troisième invité, c'est vous, Boris Bruckner. Bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue dans Quartier Livre. Vous êtes également écrivain et vous avez signé Casual Hacking, entre autres, qui est l'une des nouvelles que l'on peut lire, mais pas que, dans Situation 2043. Vous y mettez en scène une région fribourgeoise dominée par les intelligences artificielles. Je n'en dis pas plus. Et enfin, il y a vous, Daniel Vuata, en chair et en os, pas en intelligence artificielle. Vous êtes un grand amateur de science-fiction et vous vous chargez de la carte blanche de cette émission aujourd'hui.
Salut Hélène, oui. Moi, le message a été reçu 5 sur 5, donc le job des écrivains apparemment, c'est de voir le futur. Du coup, j'ai essayé. Et juste pour modérer un petit peu ce que tu as dit au début, j'ai un peu triché, j'ai demandé à une intelligence artificielle de m'aider. C'est pas très concluant, vous verrez.
D'accord, très bien. Comment la fiction, la science-fiction alimente-t-elle la réalité et permet à la fois l'imaginaire et l'anticipation? C'est en partie le cœur de cette émission réalisée aujourd'hui par Jean-Daniel Mottet et Sacha Unger, aux choix musicaux Bastien Arnold. Quartier Livre, nous sommes ensemble pendant 1 heure.
Quartier Livre, Hélène Ichters.
14h12, Düdingen. Smart Info. 34% des accidents domestiques sont issus d'infractions numériques. Franz contrôle la production sur l'écran principal des trayeuses automatiques. En hochant la tête inutilement, il valide les demandes incessantes de l'IA. La voix synthétique et grinçante résonne entre les meuglements et le souffle mécanique des machines à traire. Courbé sur l'écran de contrôle, l'homme doit approuver manuellement chaque commande parce qu'il s'entête à refuser d'enclencher le mode automatique. Soudain, l'installation cesse de fonctionner. Franz redoute la panne électrique. Sur la plateforme de traite, les bovins attendent docilement. L'IA refuse de continuer le travail tant que Franz n'accepte pas la mise à jour du programme de gestion de la traite. Il perd de précieuses minutes à observer le système se reconfigurer et à découvrir les nouveaux protocoles proposés par le software de maintenance. À cet instant, il pressent l'arrivée de son aide d'exploitation. Celui-ci marche lentement dans son dos. Il s'immobilise. « Dis, Franz, il y a une colonne de fumée au loin. On dirait comme un incendie près de Fribourg. » Cette interruption irrite l'exploitant agricole qui secoue la tête. Ça le met de travers, comme on dit. Le robot trailer CoolCow peut bien fonctionner de manière quasi autonome, il tient à surveiller lui-même le système, même si cela ne sert à rien, puisqu'il n'y a rien à surveiller une fois les réglages effectués. S'il se contente de valider ce que préconise la machine, il a tout de même l'impression de garder le contrôle. Une forme de refus philosophique que Franz résumait en quelques remontrances bien senties contre ces machines qui le réduisaient peu à peu à n'être qu'un simple pousseur de boutons. La ferme, de père en fils depuis toujours. Il y avait la date peinte au sommet de la porte de la grange. « Pas demain qu'on abandonnera ça au robot », ruminait-il souvent.
Lue par Nicolas Julliard, un extrait de Casual Hacking, une de vos nouvelles, Brice Bruckner, qu'on peut trouver dans cette parution Situation 2043. On est donc en 2043, dans une région fribourgeoise où toute forme de logistique est gérée, on l'a compris, par des intelligences artificielles, des drones dans un contexte d'économie d'énergie et de bouleversements climatiques qui impactent les fondements même de l'image de la Suisse, la ponctualité des trains, l'armée de milices et la traite des vaches.
Ben oui, absolument. C'était une des idées de base en fait de cette nouvelle, c'est de prendre un petit peu les clichés communs qu'on peut avoir autour de la Suisse. Et effectivement, les trains, les vaches, la ponctualité, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre culture dans laquelle on se reconnaît. Et je trouvais que c'était une base assez intéressante en fait pour débuter une nouvelle ou en tout cas pour l'ancrer de manière un peu dans une suissitude.
Quel mandat est-ce que vous aviez pour écrire cette nouvelle en fait ? Quel était le cadre qui vous était donné ?
Ah, alors ça c'était premièrement une discussion, parce qu'on a quand même fait un certain nombre d'allers-retours avec Frédéric Jacquot et Quentin Ladetto autour de ces différentes nouvelles. Donc on a proposé un certain nombre de scénarios, puis ensuite on en a sélectionné plusieurs, on a restreint de plus en plus, et puis il y a eu pas mal d'ajustements. On a eu un dialogue que j'ai trouvé extrêmement fructueux, et bon, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment un travail collectif. En fait, on s'est vraiment tous influencés mutuellement, on a vraiment discuté ensemble pour pouvoir produire quelque chose qui soit à la fois pertinent pour l'armée, mais aussi pertinent littérairement, et puis qui nous fasse un petit peu plaisir, parce que c'est quand même intéressant d'avoir du plaisir en écrivant.
Alors la pertinence et le plaisir, on aura l'occasion d'évoquer ça au fil de l'émission. Je me tourne vers vous, Quentin Ladetto. Donc, vous êtes l'initiateur de cette publication, Situation 2043, qui rassemble à la fois des articles philosophiques, des nouvelles, des pistes de discussion également. Comment vous le décririez, cet ouvrage ?
Alors tout d'abord comme une belle réussite, je pense. L'idée initiale étant d'en faire un outil de travail plus qu'un livre littéraire, on va dire. Donc en fait, l'idée derrière l'ouvrage, c'était d'avoir des situations très helvétiques. Donc, comparé à ce que font d'autres pays, peut-être un petit peu moins dans le domaine du fantastique et de l'impensable, ou vraiment pour aller chercher de la science-fiction extraterrestre ou d'autres éléments comme ça. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose de bien helvétique. Et puis, comme on est dans un parcours, en fait, pour les lecteurs ou bien pour les gens avec qui on va faire des ateliers de réflexion, suite à ces récits, eh bien, c'était de mettre cela dans un contexte. Donc, c'était une partie introductive à chaque histoire, et ensuite de lancer une discussion, donc de stimuler un petit peu le lecteur avec quelques questions pour que l'on puisse débattre de certains éléments et voir ce qu'ils apportent, dans quel contexte, et ce que cela signifie, alors pour nous dans le monde principalement sécuritaire, mais également peut-être dans le monde agricole, pour analyser qu'est-ce qu'un système complètement autonome de traite de vaches peut apporter, quels sont les risques, quels sont les avantages, les inconvénients. Et puis là, je pense que entre le système autonome qui traite les vaches et les véhicules autonomes et tout ce que l'on peut voir d'autonome par la suite, on voit que le parallèle, il est assez évident, je pense.
C'est intéressant que vous employiez le terme d'impensable pour la Suisse. Il y a ce côté un petit peu, voilà, est-ce qu'on n'ose pas se projeter dans des choses un peu plus catastrophiques, grandioses? D'autres pays le feraient, la Suisse le ferait pas?
Alors la Suisse le fait, enfin on aurait pu le faire. Je pense qu'après il y a aussi le au-delà de la Suisse, il y a le et la Suisse, enfin le Suisse et la Suissesse qui ont peut-être une approche ou bien une réceptivité un peu différente de la fiction par rapport à peut-être à la France ou surtout aux États-Unis où là on veut chercher le fantastique, les gens sont sous adrénaline dès qu'il y a quelque chose qui sort. Puis ça en fait expérience faite tout à fait personnel au sein du département de la Défense, il faut aussi réussir à mesurer le degré d'extraordinaire que l'on va chercher. Par contre, je pense qu'à partir de cela, eh bien, on peut tout à fait imaginer. Enfin, certains des scénarios du reste sont quand même assez extraordinaires. Et donc, ça c'est un peu pour répondre à cette partie. Puis après, dans le contexte général, il faut quand même aussi dire que l'armée suisse défend. Donc, on reste à l'intérieur de nos frontières, ce qui veut dire que, il y a quand même toute une partie d'imaginaire que l'on veut, où c'est pas qu'on se refuse de le traiter, mais on va se dire il y a peut-être d'autres priorités à traiter avant d'aller chercher une invasion extraterrestre ou des choses comme ça par exemple.
Oui, absolument. Daniel Vuatta.
Oui, quant à la Detto, j'adore l'idée qu'on dise que les écrivains servent à quelque chose, c'est-à-dire que d'un coup ils sont pas simplement obligés d'écrire des livres de leur côté, mais on a besoin d'eux par exemple à l'armée. Qui à l'armée ou comment ça s'est fait cette idée de se dire en fait ça serait chouette de bosser avec des écrivains? Qui s'est dit ça? À quel moment on s'est dit ça?
Ou disons, qui s'est dit ça? Je pense que d'un côté, vous l'avez en face de vous. De l'autre, je veux dire, c'est quand même des choses qui ne sont pas nouvelles. On a vu qu'il y a toute la série Pulp dont Frédéric connaît nettement mieux l'existence que toute l'histoire que moi, qui ont essayé de retranscrire des idées. Ensuite, il y a toutes les... Brave New World ou bien toute une série de romans qui se projettent. Oui. Voilà, pardon, le meilleur des mondes qui permet de se projeter. Après, nous, dans le dispositif purement d'anticipation, donc d'Arma Suisse Sciences et Technologies, en fait, on a toute une série d'éléments que l'on pense qui peuvent arriver. Par contre, comment est-ce que vous diffusez ces éléments au travers des différentes personnes de l'armée, au travers de l'administration. Donc là, on se rend compte qu'on n'a pas énormément de moyens. Donc il y a soit vous faites des vidéos, des films, soit des récits. Et puis chacun ayant justement des contraintes budgétaires également, on s'est rendu compte que le fait d'avoir des récits, de laisser les gens aussi libres dans leur interprétation, ça pouvait permettre, ça pouvait surprendre, et puis c'est un peu la voie qu'on a choisie. Donc c'est pas la seule que l'on suit. Du reste, suite à au récit le soldat et son intelligence artificielle, on en a fait une petite vidéo pour essayer de transmettre le message d'une autre manière, de visualiser un récit qui va stimuler d'autres questions que celles uniquement que l'on peut avoir quand on lit. Par contre, c'est un choix qui a été fait parmi quelques formats possibles pour pousser l'imagination et finalement que le monde de la défense soit prêt à ce qui va arriver.
Frédéric Jacquot, je me tourne vers vous. 2043, c'est dans 20 ans, un petit peu moins de 20 ans. J'imagine que c'est parce que le projet a été initié en 2023 que c'est 2043. C'est une bonne période en ce moment pour imaginer écrire de la science-fiction ou qui avait peut-être un regard un peu plus, on va dire, anthologique.
Alors ça dépend. C'est une bonne période dans le sens où c'est une période qui est très riche, dans laquelle on peut apercevoir énormément d'innovations déferler et prendre leur essor maintenant dans notre société. Alors c'est riche pour l'imaginaire d'une certaine manière, mais ça vous rattrape aussi très vite. Et on est dans une forme de paradoxe de création, c'est-à-dire que on a l'impression de vivre dans un univers de science-fiction au jour le jour. Alors à quel point aujourd'hui imaginer un univers qui serait autre vis-à-vis de celui qu'on vit, c'est d'autant plus compliqué. On le voit, effectivement, le 2043 est venu du fait que la période de travail s'est déroulée autour de 2023. On s'est dit, on va essayer d'imaginer quelque chose dans une génération. On raccourcit en plus les générations. Maintenant, c'est 20 ans, c'est plus 25. Au moment où on a commencé à travailler, l'intelligence artificielle telle qu'on la définissait, elle commençait à apparaître finalement sous les traits de ChatGPT. Il faut lui donner ce nom-là finalement plutôt que d'intelligence artificielle. Nous, on l'a traité avec une optique qui était déjà en fait de prospective par rapport à son, d'une part son usage, bien que la plupart des gens aujourd'hui ont déjà un sentiment de l'usage qui sera fait de cette intelligence artificielle un jour ou l'autre, mais aussi de son impact sur la société puis son intégration. Mais on s'est aperçu en écrivant et en finissant d'écrire, on était déjà dépassé par ce qui était en train de se passer dans le réel. Donc c'est cet élément-là en fait d'aller-retour qui nous intéresse. Quand on construit ce type de texte prospectif, le plaisir il est là, certes, mais en dehors du plaisir, on a aussi une sorte d'impression étrange de se faire dépasser par le réel, et donc il y a une sorte de course comme ça qui a lieu au jour le jour. Alors propice, oui, et puis d'une certaine manière, non, puisqu'on sera toujours en dessous d'une certaine forme de vérité. Alors ça peut aller dans l'optique de la question que vous avez posée à Quentin tout à l'heure sur le côté grandiose des éléments en termes de fiction. On a l'habitude effectivement, surtout par une forme de cinéma hérité par les États-Unis, qui veut que les effets doivent toujours être le plus grand possible pour impacter l'imaginaire. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui aussi les technologies qui nous entourent, elles sont tellement énormes qui nous dépassent dans ce qu'on peut dire, mais en même temps, leurs implications sont tout à fait quotidiennes. Et on oublie de traiter le quotidien, la petite chose, le petit élément qui fait la différence. Et aujourd'hui, en fait, l'extraordinaire, on va le retrouver dans ces éléments-là, hein, dans la petite trotteuse qui va s'arrêter une seconde, dans la toute petite chose qui va se dérégler à un moment ou à un autre. Et c'est sur cet aspect-là qu'on a essayé de travailler, finalement, sur la notion que moi j'appelle ça un système complexe, c'est-à-dire énormément d'éléments qui vont s'allier les uns les autres, et plutôt que d'imaginer finalement ce système implosé ou explosé, et ben d'aller chercher le petit élément, le petit grain de sable qui fait qu'à un moment ou un autre, ben la machine, elle explose pas, elle s'enraye. Et étonnamment, on continue de vivre nous avec des machines qui souvent s'enrayent.
L'analogie avec la montre suisse, elle est toute exposée.
C'est parfaite.
Oui. Daniel Poitat, vous aviez une remarque? Non?
Tout plein, j'en avais plein, mais je le garde pour après.
D'accord, très bien. Alors, la collaboration entre fiction et réalité, armée ou non, elle est très très ancienne. Hein. Vous apportez, vous, votre regard historique et philosophe dans cette publication, et vous dites notamment que l'humain est un être de fiction. Expliquez-nous.
C'est dans ce rapport qu'on a depuis qu'on se raconte. Alors c'est difficile à estimer la chose, mais l'homme s'est mis en histoire très tôt. Ça fait partie de son ADN réel, social et plus. C'est-à-dire que l'humanité se construit sur ses propres récits. Il en fait quelque chose. Alors, les plus anciens, ceux qui perdurent, c'est ce qu'on appelle les mythes ou les mythologies, hein, qui sont perpétués comme ça et remodelés de génération en génération, de société en société. Mais d'une manière beaucoup plus, je dirais, pop-corn, on l'oublie, les textes ou les films les plus anodins, les plus populaires, ont leur propre impact sur nos propres sociétés. D'une part, parce qu'ils sont construits sur la base même de ce qui nous fait, c'est-à-dire que nos intérêts nous poussent forcément à créer ces fictions-là, mais ces fictions-là, elles-mêmes viennent finalement innerver notre imaginaire, qui lui-même ensuite va venir innerver le réel. Donc on ne peut pas douter ou nier qu'il y a des mouvements d'aller-retour entre l'image du robot tel qu'il a été construit à la fin du 19e siècle au travers de textes plus ou moins populaires, et puis soudain des scientifiques qui vont s'évertuer à créer des robots bipèdes avec une tête en plastique. C'est quelque chose qui fait que il est difficile de savoir d'où vient la poule ou l'œuf. C'est un vieux paradoxe, mais vis-à-vis de la fiction, il est certain que l'homme ne serait pas ce qu'il est, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est si elle ne lisait pas ou si elle ne croyait pas en ses propres fictions.
Je vous propose d'écouter un extrait de l'un des textes que vous avez écrit dans cette parution, lu par Nicolas Julliard.
La fonction de ces récits n'est pas d'illustrer l'impact positif ou négatif des technologies sur la société. Il s'agit de dégager l'influence de celles-ci, parfois imperceptible, qui participe au changement des us et coutumes, les corps, les esprits. Ces histoires fonctionnent comme des instantanés, faisant preuve de partialité et de défaillance. Des souvenirs du futur qui se fondent sur des impressions, des sensations, l'intuition des auteurs. C'est-à-dire sur le phénomène, au sens grec de phainomai, de sentiment.
Voilà, donc un extrait d'un texte que vous avez écrit. Il y a cette notion de sentiment. Qu'est-ce que c'est que cette notion de sentiment ?
La notion de sentiment, c'est une image finalement pour montrer aussi qu'un texte, c'est un objet en tant que tel. Un texte n'existe pas sans sa lecture et sans sa réception. Dès le moment qu'un lecteur va l'activer en produisant finalement sa propre lecture, vous avez énormément d'éléments qui vont se désagréger de ce texte-là. Alors c'est quelque chose qui est quasiment un rapport avec l'idée même de ce que l'énergie provoque en rentrant en contact finalement avec un objet pensant. Et ce sentiment-là, c'est de montrer que sous l'influence d'un texte qui pourra partir d'une intrigue, qui pourra avoir énormément de descriptions, qui va pouvoir animer énormément d'éléments, tout à chacun va se sentir plus ou moins proche de ce texte-là et activer des éléments qui sont autres et le garder pour lui-même. Et c'est ces sentiments-là finalement que moi je mets en avant pour tout acte de création, qu'importe, lorsque vous allez regarder Mona Lisa, et pas forcément regarder un portrait ou le portrait d'une femme avec un sourire énigmatique, vous allez récupérer à vous des sensations, des sentiments, et c'est ces éléments-là que vous allez ensuite prendre avec vous et faire perdurer ailleurs.
Une forme de poésie là derrière.
Un petit peu.
Oui. 16h25, nous écoutons, vous écoutez Quartier Livre, nous parlons de Situation 2043, on nage en pleine science-fiction, également en musique, avec le titre qui vient, Digital Love par Daft Punk.
Having fun, the kind of feeling I waited so long.
énorme débat sur Daft Punk, sur les intelligences artificielles et la musique.
Et voilà. Les Beatles.
Et les Beatles, voilà. Donc ici, c'était musique et science-fiction. On aurait carrément pu faire une émission entière à ce propos, mais ce sera pour une autre fois. Vous aurez reconnu donc le duo de robots Daft Punk, extrait de ce merveilleux album Discovery, qui était également un film d'animation réalisé par Leiji Matsumoto, le père d'Albator. Paix à son âme. Retour sur Terre dans nos studios avec vous, Quentin Ladetto, avec Frédéric Jacquot et Boris Bruckler, qui sont nos invités pour évoquer cette publication Situation 2043. Je précise que c'est une publication qu'on ne peut pas trouver en librairie, mais nous pouvons vous la fournir, auditrices et auditeurs, par PDF. Et pour ça, vous pouvez nous écrire à Quartier Livre en un mot au singulier @rts.ch. Quartier Livre en un mot au singulier @rts.ch si vous voulez avoir le lien PDF de cette publication. Fin de parenthèse. Voilà, publication donc initiée par Arma Suisse. Quentin Ladetto, le département de l'armée suisse avait besoin de faire appel à des auteurs de science-fiction donc pour imaginer des situations inédites parce qu'elle-même, eh bien, elle est d'une certaine manière limitée.
Disons qu'on va dire qu'elle s'occupe d'autre chose, plus que limitée.
Très bien répondu.
Disons que c'est l'occasion de, en fait, le programme en tant que tel de prospective à la base technologique. Donc, on essaye de partir des technologies et puis ensuite de voir comment elles peuvent influencer, impacter le monde de la défense, le monde sécuritaire. Alors, soit pour offrir des opportunités pour l'armée suisse dans un cadre de défense, soit pour anticiper aussi les menaces qu'elle pourrait représenter pour des attaques, par exemple sur des infrastructures critiques ou bien des autres façons qui sont peut-être un peu plus détournées. D'influencer soit des votations, soit des différents éléments comme ça.
Ah,
donc là, on est
toujours
un petit peu... Voilà, du vote... Alors, de nouveau, c'est pas pour prendre parti ou pas, c'est juste de soulever les défis, les questions qui se posent un petit peu à tous les niveaux. Et puis, également, dans un cadre de défense et spécifiquement militaire, en fait, l'armée suisse, c'est une armée de milices. Et on s'est dit, toutes ces nouvelles technologies qui voient le jour, elles doivent être étudiées, elles doivent être maîtrisées quelque part. Et puis, ça permet aussi des réflexions sur les nouvelles compétences de demain, sur les nouvelles formations, sur plein d'éléments qui, au début, ne sont pas forcément la question numéro un, soit d'un récit ou d'autre chose. Et on voit, par l'intermédiaire des différents récits de science-fiction qui font partie de Situation 2043, que, par exemple, si vous avez une intelligence artificielle qui est utilisée dans le monde militaire, quelles sont les données qui vont la nourrir? Est-ce que le soldat de milice où s'arrête sa sphère privée, où est-ce qu'elle commence, qu'est-ce qui se passe quand il a des données, par exemple, qui viennent de l'étranger ou des choses comme ça. Donc, de nouveau, ça permet d'ouvrir le débat et puis des fois, des éléments ou des angles de réflexion qui n'ont peut-être pas été considérés. Et puis, c'est à ce moment-là, justement, que des histoires permettent d'une manière relativement douce de les faire remonter à l'esprit.
Oui, alors là, vous touchez justement un point très intéressant et on en revient à l'aspect outil de cette publication. C'est que chaque nouvelle est suivie dans la publication, en fait, d'une proposition de discussion avec des questions qui sont proposées. Notamment, il y a cette nouvelle dont vous êtes l'auteur, Boris Bruckler, qui parle de réduit national,
oui.
Mais numérique.
Absolument.
C'est ça. Et les questions qui suivent, c'est, que faut-il conserver? Voilà, on n'a pas suffisamment d'espace pour tout conserver. Qu'est-ce qu'on conserve? Jusqu'à quand? Qui a été à l'origine de ces questions qui ont été posées après? C'est vous, Boris Bruckler? C'est vous, Frédéric Jacquot?
Je crois qu'on a... C'est une bonne question, en fait. Qui a posé les questions? On en a parlé ensemble et on s'est posé mutuellement des questions. Je crois que c'est toi, sur cette nouvelle-là, qui avait formalisé ça, il me semble.
C'est possible. Oui. Non, mais l'intérêt, c'est qu'on ne sache plus qui.
Oui, mais c'est un vrai travail collectif, effectivement.
Oui.
Non, il y avait une vraie réflexion sur les données, et notamment les données numériques. Et puis, d'autre part, que ce soit Boris et moi-même, on travaille dans des zones où on traite différemment, mais on traite de l'idée de l'archive, de la perpétuation de la culture, du savoir, de la donnée. Et c'est un des grands pans de réflexion actuel dans notre société, à savoir la numérisation, mais pas que son traitement, sa conservation, sa perpétuation. Et tout simplement de voir dans 20 ans à quel point, enfin, où est-ce qu'on en serait, puis ce qu'on pourrait en tirer, parce qu'on le voit d'une manière tout à fait de nouveau quotidienne et anodine via du hacking aujourd'hui qui se fait sur les entreprises et les sociétés au niveau de données sensibles qui sont liées à ces sociétés-là, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Mais ça s'est fait depuis le début, on parle moins. Dans le quotidien de tout à chacun, on peut recevoir un petit email qui vous dit « je vous ai surpris, faire ci, faire ça ». Des rançonnages pour de la donnée seront de plus en plus présents. Et ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que d'une certaine manière, ça pourra toucher l'intime. Si demain, tout le monde a ses photos privées dans des clouds, dans des endroits finalement qui sont plus physiquement repérables pour tout à chacun, et puis qu'on vous dit qu'on vous a privé de toutes les photos, de tous les souvenirs que vous avez à disposition de vos propres enfants, là, on touche à quelque chose de l'ordre de l'intime qui est difficile à défendre.
Oui, ben moi j'avais peut-être un mot pour compléter. Effectivement, on vient tous les deux du monde des archives, la documentation, c'est des sujets qui nous intéressent fortement, et la conservation physique et aussi numérique. Et il se trouve qu'on est face à un paradoxe, c'est que dans le futur, c'est très probable qu'on connaisse moins bien le passé ou moins bien notre période actuelle que la période de 1900. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout est numérique, tout passe par le numérique. Qui conserve le numérique ? Quelles données est-ce qu'on conserve ? Par exemple, en Suisse, il n'y a pas de dépôt légal numérique. Il y a les sites web, par exemple, des politiciens sont figés, sont copiés une fois, il n'y a rien de dynamique. Donc, comme il n'y a bientôt plus de journaux papier, on n'a plus cette connaissance-là. Et c'est un exemple parmi d'autres qui montre que demain, en fait, on connaîtra moins bien les années 2020 que les années 1980, par exemple. Et ça, c'est un aspect qui...
Du fait que c'est privatisé. Hein.
Et que tout est privatisé, bien entendu. Donc, d'où l'idée de réduit national. Mais en même temps, en Suisse, on n'a pas les moyens, en fait, de tout conserver. Personne n'a d'ailleurs les moyens. Qui sélectionne ? Pourquoi est-ce qu'on sélectionne ? Est-ce qu'on sélectionne les aspects privés ? Est-ce qu'on sélectionne les aspects associatifs, politiques, militaires ? Comment est-ce que c'est conservé ? Tout ça, c'est vraiment des questions que je pense qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, parce qu'elles auront un impact décisif demain.
Oui, ce que vous dites, c'est intéressant, ça touche aussi à la question de comment est alimentée toutes les intelligences artificielles d'aujourd'hui, qui sont alimentées donc par ce qui est à disposition principalement en ligne, donc ce qui a été numérisé. Il y a un article, je voulais le souligner, celui de Laurent Bolli aussi dans la parution, qui est super intéressant à cet égard-là. Laurent Bolli, il est donc spécialiste en interaction humaine-machine, professeur à la HEIG Vaud, et cofondateur de la société Odoma. Et puis c'est vrai que lui, il nous rappelle aussi cette histoire-là que, en fait, ce qui est disponible pour les intelligences artificielles, c'est ce qui a été numérisé par des personnes, par des petites mains, à un moment donné. Donc il n'y a pas tout, en fait. Il y a des pans entiers de la connaissance qui ne sont pas numérisés, qui seront peut-être jamais numérisés, soit parce qu'elles sont en main privée, soit parce que c'est pas réputé intéressant, et qui échappent en fait à ça. Quand je préparais ma chronique de tout à l'heure, je me renseignais sur l'année littéraire 1943 sur Wikipédia, et en fait c'est beaucoup moins riche que l'année 1843 qui, elle, est super développée. Il y a presque chaque jour on sait ce qui s'est passé, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et puis 1943, donc on pourrait imaginer que 2043 on aura encore moins d'infos sur ce qui s'est passé littérairement.
Et par exemple, un autre exemple pour terminer là-dessus, avec toutes les plateformes privées, c'est par exemple, tout le monde passe par YouTube, un exemple parmi d'autres, mais demain YouTube peut fermer. Qu'est-ce qui va arriver avec toute cette culture qu'on a placée sur YouTube ? Peut-être rien.
Absolument. D'où l'intérêt d'avoir un service public, pourquoi pas, qui archive les choses pour vous, auditrices et auditeurs, et l'importance, voilà. On peut peut-être dire que Boris Bruckler a travaillé au secteur archives.
Voilà.
Et nous,
aussi.
On a beaucoup de bandes magnétiques, qui est un merveilleux support d'archivage, pour autant qu'il n'y ait pas d'éruption solaire, évidemment, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous un spécialiste, on revient au mélange entre la musique et le texte. Spécialiste, c'est vous, Daniel Juata, avec votre propre vision de 2043. C'est parti, carte blanche.
Ne me dérangez pas, je lis.
Hélène, vous le savez, je travaille en musique, vous l'avez dit, la plupart du temps, je commence par chercher un morceau sur lequel écrire ma carte blanche, avec si possible un lien entre le titre et le sujet, par exemple Atom Heart Mother pour parler des déchets nucléaires, ou Eric Satie pour Ramus son contemporain. Pour Situation 2043, j'ai pas eu à chercher bien longtemps, parce que 2043, c'est le titre d'un morceau du grand Alain Bachung.
La belle bois dormant a fermé les écoutilles. Elle hiberne. La réveillez pas.
2043, le titre figure sur un album culte de 1998 qui s'appelle, on est quand même pile dans le sujet, hein, Fantaisie militaire. J'ai aussi hésité avec un autre moment, avec un autre titre qui est sur un album qui s'appelle 2043 volume 1 du groupe de dark techno australien Power Glove. Vous voyez ou pas? On les connaît surtout pour leur BO du jeu vidéo rétro-futuriste Far Cry 3 Blood Dragon. On écoute un instant. Voilà, mais ça dure une demi-heure, donc j'ai décidé de faire Bashung. L'année 2043 est une année qui commence un jeudi. Merci Wikipédia. Ta fiche pour cette année cruciale existe déjà, mais elle est totalement vierge. Pas d'événements prévus. Cette section est vide. Votre aide est la bienvenue. Message reçu 5 sur 5. Je suis écrivain et mon job, c'est de voir le futur. 2043, pour fêter leurs 100 ans, Catherine Deneuve et Mick Jagger se marient à Las Vegas. Après tout, Mick a été témoin de mariage de Kat 80 ans plus tôt, le saviez-vous? 2043, le premier enfant à l'espérance de vie potentiellement infinie vient au monde, à New Bethlehem, Pennsylvanie. Sauf que cette année-là, par 53 degrés à l'ombre des dattiers, son espérance de vie... 2043, les glandeurs de la génération Z sont désormais au pouvoir. Partout, sauf en Russie. Poutine, 91 ans, entame son 8e mandat, cryogénisé sur la place rouge, le doigt figé sur le bouton rouge. 2043, le budget de l'armée suisse passe à 10% du PIB, dont la moitié est affectée aux poules d'autorise conjecture cyberprospectif. Leur job? Entraîner les robots tueurs à buter l'ennemi avec de la conversation. 2043, ma fille est née à l'âge que j'avais quand elle est née. Pour elle, c'est clair, malgré la prime de naissance de 100 000 francs, elle n'aura pas d'enfant. 2043, le revenu de base universel est accepté, grâce à lui, à 57 ans, mon Dieu, je peux enfin écrire des romans sans me soucier du succès. 2043, l'intelligence artificielle a fait des progrès depuis quelques années, elle est capable d'écrire des choses aussi imprévisibles et belles que... D'ici là, jailliront des cascades. D'ici là, vogueront les obscurs. D'ici là, j'aurai découvert... Lequel de mes plusieurs sera à même de la sauver? La sauver, c'est qui? La littérature? Belle endormie, relique nostalgique des teen centuries, muséifiée, teint de porcelaine sur les méta-étagères de la Bibliothèque Nationale. Eh, 2043, écoutez ça. En Suisse neutre orientale, on vient de fêter le 750e de la Confédération. L'herbe du Grütli est toujours verte et tendre, entretenue par des drones arroseurs décorés de dentelles de cingale. En contrebas, le lac des Quatre Cantons étend ses bras asséchés entre les collines jaunes des régions fondatrices. 2043, on fête, comme partout ailleurs sur la planète, le 100e anniversaire du Petit Prince, traduit pour l'occasion en Globish, alors que la maison d'ailleurs célèbre dans l'indifférence la plus complète le centenaire de Ravage de Barjavel. 2043, Frédéric Jacquot, 66 ans, touche enfin sa 13e rente AVS et signe la préface de Situation 2063. Il y fait d'ailleurs son mea culpa. Contre toute attente, la littérature n'a pas sauvé le monde. Hello ChatGPT, comment écrirons-nous de la fiction dans 20 ans? Prédire avec précision comment nous écrirons de la fiction dans 20 ans est difficile. Cependant, voici quelques tendances possibles. En 2043, les œuvres seront coécrites par l'intelligence artificielle, les récits seront interactifs, multimédia, personnalisés et adaptatifs. La blockchain sera la norme pour la propriété intellectuelle. Hello ChatGPT, comment ça se fait que le mot livre n'apparaît pas dans ta réponse? Laisse tomber en fait. Hello ChatGPT, dis-moi plutôt, quel est le pire scénario pour 2043? Catastrophe environnementale, instabilité politique et sociale... Ok, ChatGPT, je précise. Quel serait le pire scénario pour la littérature en 2043? Voici le pire scénario pour la littérature en 2043. Les grandes corporations promeuvent des œuvres commerciales standardisées. La lecture devient une activité marginale. De nombreux écrivains sont contraints d'abandonner leur passion pour des emplois plus stables et mieux rémunérés. La création littéraire devient un luxe réservé à une élite privilégiée. Ok, ChatGPT, merci. En fait, ça, c'est la situation actuelle. Donc, soit tes algorithmes sont vraiment débilos, soit, en fait, rien ne va changer. Bon, et en Suisse, ChatGPT, dis-moi, en Suisse, entre nous, ça sera comment? Dans l'ensemble, bien que je ne puisse pas prédire des événements ou des... Oui, c'est bon, fais-moi pas chier, réponds. Ça sera comment en Suisse en 2043? Pour la Suisse en 2043, tant au niveau national qu'international, il est probable que le pays continuera à maintenir sa réputation de stabilité, de prospérité et d'innovation. D'ici là, jailliront les cascades. D'ici là, vogueront les obscurs. D'ici là glisseront les combats, d'ici là j'aurai découvert lequel de mes plusieurs sera à même de la sauver. La Suisse ou la littérature? D'ici là, on verra.
Quartier Livre.
Merci beaucoup Daniel Huata. Ben voilà, je pense que vous savez qui contacter hein, pour
la suite,
la prochaine publication. Qui veut réagir? Frédéric Jacquot.
Non, mais ça me fait plaisir. Moi, j'avais vraiment le morceau de Bachung en tête quand j'ai commencé le projet. Parce que Quentin est venu en me proposant la date de 2043 avec cette idée effectivement d'écrire quelque chose dans 20 ans. Et moi, j'ai pensé tout de suite Bachung. Je voyais quelque chose aussi... Il y a un travail effectivement prospectif qui est fait dans ces textes-là de vouloir penser finalement le demain à court terme. Mais en dehors de ça, il y a aussi des sentiments et des sensations qui doivent se dégager et se propager dans les textes. Et finalement, ce morceau précisément de Bachung fonctionnait très bien, à mon sens.
Je confirme, il m'a parlé de Bachung dès le début.
Donc là, peut-être, là, on va en faire une chanson, alors.
Prochain développement pour l'armée suisse, peut-être.
Et on sait pas pourquoi lui, il a choisi 2043. J'ai cherché, mais c'est pas clair.
C'est vrai.
Il y a pas de raison claire, apparemment. Il y a pas un nombre d'années, genre 20 ou 30, ça sera 98. Enfin, il y a vraiment aucune autre raison, à part même, c'est même pas une rime. C'est juste la prophétie.
En tout cas, on a appris l'âge de Frédéric Jacquot.
Si on fait le calcul, ouais.
Vous avez spoilé Daniel Huata. Bon, on avance vite dans cette émission. Mine de rien, moi, j'aimerais vous proposer une tradition. C'est la fameuse tradition du QCM.
Quartier Livre.
Et qu'est-ce que c'est que ça, des pommes de terre?
C'est votre dernier mot?
Oui, ça m'a tout l'air d'être des livres.
Le questionnaire à choix multiples, trois questions pas sérieuses pour mieux vous connaître, pas de réponse juste ni fausse. Êtes-vous prêts?
Oui, prêt.
C'est parti, question numéro 1. Le scénario catastrophe de vos pires cauchemars, c'est petit A, une deuxième présidence de Trump, facile. Petit B, la disparition de l'écriture, comme dans le roman « Des êtres presque transparents » de l'autrice lausannoise Louise Bonsac, paru il n'y a pas très longtemps. Petit C, la privatisation de la Lune et de Mars. Ou petit D, vous retrouvez au chômage, remplacé par une IA.
À choisir entre les catastrophes, c'est jamais facile. Bon, la catastrophe la plus directe pour moi, ce serait de me retrouver remplacé par une IA parce que je ne pourrais plus rien faire d'autre pour moi-même. Mais je pense que la catastrophe très prévisible, là, c'est l'élection de Trump qui, celle-ci, va entraîner plein d'autres catastrophes comme le fait que je sois remplacé par une IA, qu'on ne lise plus et que la Lune soit privatisée. Donc je pense que c'est une catastrophe qui conjuguerait toutes les autres catastrophes.
Oui, je suis assez d'accord avec ça.
Oui, ça fonctionne bien.
Ça fonctionne. D'accord, ouais. C'est vrai, c'est une catastrophe. Qui en entraîne toutes les autres. Deuxième question, Daniel Huata.
La Suisse, les Alpes, vous choisissez un scénario catastrophe pour un prochain roman. Est-ce que c'est petit A, une mainmise militaire de l'Union européenne sur la réserve d'eau douce des Alpes? Petit B, le contrôle de la population mondiale via une toxine fongique injectée dans les plaques de chocolat d'une grande marque dont on ne citera pas le nom ici? Petit C, l'annexion du Valais par la Russie? Ou petit D, un gigatrou noir qui naît dans le futur super collisionneur du CERN.
Ouais, attention, on a des copyrights hein, sur les sujets de
romans. Si vous choisissez un C4, on vous le
bah, donc, venant de Sion, étant valaisan, c'est vrai que...
L'annexion du Valais.
L'annexion du Valais, ouais. Ouais.
Par le Haut-Valais.
Oui, alors déjà, il n'y aurait pas besoin d'aller si loin, en fait.
Ouais, la guerre civile valaisanne, je pense que ça peut être un scénario qui n'est pas tellement prospectif. En fait, on est toujours à la limite de la guerre. Ouais. Moi, je choisis le Valais aussi, ça semble vraiment très dangereux, cette histoire.
Et disons qu'on avait eu aussi le Valais dans l'espace, donc on espère quand même que ce soit des fins, des fins très pacifistes.
Frédéric Jacquot.
Moi, je suis assez partant pour le trou noir, en fait.
Le trou noir qui naît dans le futur collisionneur du CERN.
Ouais, celui qui passera sous le lac. Juste.
Oui, non, mais en plus, il y a un petit air de déjà-vu avec la première fission non contrôlée en nucléaire en Suisse, qui a eu lieu, c'était auprès de Moudon. Je sais pas si tu sais ça, toi.
Est-ce que les militaires ont des renseignements là-dessus?
Ah, tout ce que c'est classifié. Ah, c'est ça.
Mais le trou noir existe aussi, mais il est classifié aussi.
D'accord. Bon, très bien. Eh bien, on fera une nouvelle émission pour sa troisième question. Vous avez droit à une seule œuvre de science-fiction anticipation, à conserver pour les générations à venir. Il n'y en a aucune autre. Attention. Vous choisissez petit A, Dune, de Frank Herbert. Petit B, Nausicaa, de la Vallée du Vent, de Hayao Miyazaki. Petit C, Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie Shelley, ou petit D, la Bible.
Une question intéressante. Moi, j'ai choisi Dune parce que je suis un fanatique de Frank Herbert et je pense que c'est une œuvre absolument colossale qui est de nouveau qui aborde un peu tous les aspects de la science-fiction qui peuvent nous intéresser, de la politique, de la religion, de la ressource, de la gestion de population, de la technologie. Il y a un peu tout qui est dans Dune. Dune, c'est vraiment très bien. Il faut lire Dune et pas juste les premiers volumes.
Mais il n'y a pas beaucoup de femmes non plus.
Ah si, justement, au contraire.
C'est quand même un peu le Messie, c'est un petit gars quand même.
Ah ouais, mais tous les personnages principaux quasiment sont des femmes au travers de l'ordre des Bene Gesserit. Tout le long du récit, ce sont les femmes qui dominent le jeu, en fait, si on lit jusqu'au bout.
C'est vrai. Frédéric Jacquot.
Moi, j'aimerais déroger, je prendrais Fahrenheit de Bradbury, parce que finalement, c'est le livre qui conserve tous les livres. Mmh.
Voilà. Très bien.
Moi, je pensais qu'on allait prendre Situation 2043. c'est pas au menu.
Personne qui n'a lu poésie et visionnaire Nausicaa de la Vallée du Vent.
Nausicaa,
Miyazaki, avec l'artisanat du dessin animé à la main.
Ah, Nausicaa, c'est sublime, hein. Évidemment.
D'accord.
Évidemment.
Ok, non, mais ça va très très bien.
Et on se rend compte de son ignorance en même temps, parce que je dois avouer qu'il y en a deux que je connaissais pas.
Très bien, la Bible.
Dont la Bible.
Ça sera l'occasion de la lire.
Très bien, bien, merci beaucoup d'avoir participé à notre QCM.
Quartier Livre.
La frontière, on leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer, cette qualité de lumière propre aux pays aurifères. Et forêt de conifères bordaient les premières sphères d'où arrivaient lent leurs frères, dont la peau bleue s'éclaire à la vue des nouvelles mers, des nouveaux pères de leur terre. Soudain, il n'y avait plus de frontières, ils avaient enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières, ils avaient enfin trouvé le pays qui n'existe pas. C'était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais. Ils flottaient sous l'atmosphère. De grands ballons d'éther, cœur de silence dans la clairière. Les enfants solitaires savaient se cacher derrière l'air, derrière un brin de bruyère. Des femmes aux saris ocre incendiaires défilaient tête nue et fière près d'androgynes centenaires. Oh, 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 quatrième millénaire. Il n'y avait plus de monde.
Un petit bout de Wendy Martinez, alors que les débats continuent de prendre son envol hors micro. Le pays imaginaire, 16h52 dans Quartier Livre. Je vous propose de prendre un peu la température de l'actualité du livre en compagnie de Nicolas Julliard. I am not the kind of girl who should be rudely barging in on a white veil occasion, but you are not the kind of boy who should be marrying the girl.
You are alone in your rebellion, Miss Dickinson.
Emily Dickinson et Taylor Swift, quel rapport ? Depuis plusieurs années, la poétesse américaine, disparue en 1886, inspire la mégastar pop, au point que cette dernière évoque régulièrement Emily Dickinson dans ses interviews. Et les fans ont relevé que le 9e album de Taylor Swift, Evermore, était paru un 10 décembre, date de naissance de la poétesse. Or, un site dédié à la généalogie vient de révéler un lien de parenté entre les deux artistes. Selon Ancestry.com, Swift et Dickinson seraient cousines au 6e degré, toutes deux issues d'un ancêtre commun ayant émigré d'Angleterre aux États-Unis au 17e siècle. Franchement, un biopic ou une fiction littéraire s'impose. On aimerait bien savoir qui était ce type, capable de donner naissance à une des plus grandes poétesses américaines et à l'artiste la plus écoutée d'aujourd'hui. Il est question d'armée dans cette émission. Allez savoir pourquoi ça me fait spontanément penser à Donald Trump.
They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that.
Il ne vous aura peut-être pas échappé que l'ancien et peut-être futur président des États-Unis a choqué le monde entier cet hiver en utilisant à plusieurs reprises des termes empruntés à Adolf Hitler. Un hommage sans doute à l'ascendance germanique de la famille Trump. Or, un livre à paraître, de la main du journaliste de CNN John Sciutto, raconte comment Donald Trump admire Hitler au point d'avoir sur sa table de nuit une anthologie des discours du Führer. Voilà qui laisse perplexe quand on promeut, comme ici à Quartier Livre, la lecture, moyen d'élévation spirituelle par excellence. Sauf qu'on apprend dans le même temps qu'il y a bien peu de chances pour que Donald Trump s'inspire littéralement de ce livre, puisque de l'avis de tous ceux qu'il connaissent, l'homme ne lit jamais rien et serait quasiment illettré. Mais peut-être est-il simplement abonné au compte Twitter du Troisième Reich. Allez savoir.
Vous avez un genre qui ne me plaît pas, Lulu, mais qui pourrait plaire au juge d'instruction. C'est pourquoi je vous conseille de mettre votre avocat en veilleuse et votre montre à l'heure.
Enfin, la citation de la semaine, la voici. Je n'utilise pas d'adverbes, je n'utilise que des mots à trois dimensions. Qui a dit ça? Un écrivain dont le sens des lieux, de l'espace et des situations reste spectaculaire. Cet écrivain, c'est Georges Simenon, disparu il y a 35 ans.
Un auteur ne doit pas lire. Et d'ailleurs, je refuse absolument de lire un roman. Pour une bonne raison, c'est que ça peut m'influencer.
Simenon revient à partir de ce week-end par la grâce d'une exposition retraçant la vie et l'œuvre du créateur du commissaire Maigret et bien d'autres choses. Simenon en trois dimensions, donc, c'est à voir à la Fondation Yann Michalski de Montricher jusqu'au 29 septembre.
Merci beaucoup à Nicolas Julliard. Et messieurs, vous l'avez entendu, la semaine prochaine, dans le cadre de cette exposition à la Fondation Michalski, John Simenon, le fils de Georges Simenon, sera l'invité de Quartier Livre au micro de Nicolas. Et c'est là que je vous dis, mais quelles questions auriez-vous envie de lui poser, Brice Bruckler?
Alors moi, j'aurais une question. J'ai rencontré beaucoup d'artistes qui se plaignaient que leur famille, leurs amis, leurs proches, en fait, ne lisaient pas leur propre production. Donc moi, la question que j'aurais à poser, c'est, avez-vous lu la totalité des œuvres de Simenon?
Très bonne question. Frédéric Jacquot.
J'aurais même fait une question à la Magritte. Est-ce que Simenon fumait une vraie pipe?
Très bien. Quentin Ladetto?
Oh là là, moi j'aimerais connaître, en fait, savoir si quelqu'un connaît toute la famille des acteurs ou des personnes qui gravitent dans la galaxie de Simenon.
Eh bien, ces trois questions, nous les conservons précieusement et nous les diffuserons la semaine prochaine dans l'émission donc de Nicolas Julliard. Merci à vous. C'est la fin de cette émission d'avoir été avec nous. Donc, merci à vous, Quentin Ladetto. Je rappelle que vous êtes directeur du programme de prospective technologique au sein d'Arma Suisse Sciences et Technologies. C'est bien ça?
C'est ça.
Voilà,
c'est
vous avez été à l'initiative de cette publication Situation 2043. Merci à vous, Frédéric Jacquot, d'avoir été notre invité. Vous êtes écrivain, conservateur de la maison d'ailleurs et contributeur, donc grand contributeur dans cette revue Situation 2043. Et enfin, merci à vous, Brice Bruckler. Vous êtes également écrivain et avez signé plusieurs nouvelles dans cette publication. Et auditrices et auditeurs, je rappelle que si vous souhaitez vous la procurer, c'est possible, mais par PDF uniquement, vous nous écrivez un mail poli avec bonjour, au revoir, merci, à Quartier Livre en un mot et au singulier, @rts.ch, je répète, Quartier Livre en un mot et au singulier, @rts.ch. Voilà, voici quelques nouvelles de l'état des routes, sans drone de surveillance évidemment.
Infotrafic RTS avec Devillard, votre partenaire du copieur à la gestion électronique de documents, devillard.ch.
Sur l'autoroute Martigny-Lausanne, les véhicules accidentés entre l'échangeur de la Vère et Chèbre en direction de Lausanne ont été évacués. Toutefois, d'importants ralentissements sont signalés à partir d'Aigle. Le tunnel de Glion peut être fermé par intermittence afin d'éviter la formation de colonnes dans l'ouvrage. Entre le Chablais et la région lausannoise, le temps de parcours est rallongé d'une heure au moins. Sur la ligne de ferroutage de la Fourca, il faut patienter une heure et demie à la gare de chargement d'Oberwald. Davantage d'informations sur le trafic ou l'état des routes août en Suisse sont disponibles au numéro 163 au prix de 90 centimes l'appel, puis de 90 centimes la minute.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Merci à Jean-Daniel Mottet, à Sacha Unger, à Nicolas Julliard, à Bastien Arnold et à Garance Parvis pour cette émission. Et merci à vous, Daniel Vata, d'avoir été à mes côtés pour cette passionnante émission. La suite sur RTS La Première, c'est les infos suivies de La Belle Échappée.
La Première vous offre l'heure.
Nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi à l'écoute de nos programmes. Il est très précisément 17h.